J'ai préparé une série de deux, peut-être trois, on va voir le temps dont nous disposons, pour parler du culte, un culte agréable au Seigneur, un culte agréable à Dieu. Dans notre siècle, dans le 21e siècle déjà, on a derrière nous plus de 20 siècles de christianisme. Et 1500 ans, dans notre pays, la filiale d'église, la France, de chrétiens nationalistes. Alors, c'est quoi le chrétien nationalisme? C'est-à-dire, c'est un christianisme qui a été décrété comme religion d'État. Alors, ça a commencé par Constantin, ensuite après Clovis. D'ailleurs, l'Église catholique, à chaque fois, rappelle que Clovis a été le fondateur un peu de l'Église catholique ici en France, et ensuite après en Occident. Nous avons aussi 200 ans, alors je passe à autre chose, mais c'est un peu pour nous rappeler notre histoire, 200 ans de progrès scientifiques depuis la Révolution, qui ont marqué aussi ceux qui vivent dans ce pays, ceux qui viennent. C'est une bénédiction pour nous, parce que vous avez d'autres racines, d'autres, même si vous êtes en métropole, enfin, dans les pays d'origine française, mais vous avez des cultures différentes. Mais cette culture, le nationalisme chrétien, le centralisme d'une religion imposée, du christianisme, a beaucoup marqué les Français qui, aujourd'hui, n'en veulent plus. Il y a eu 60 ans aussi de libéralisation des mœurs. Je veux dire, en 68, les mœurs ont été libérées. D'ailleurs, on a vu à ce moment-là que les églises catholiques se sont complètement vidées du jour au lendemain. Tellement il y a eu cette libéralisation des mœurs, vous faites ce que vous voulez, il n'y a plus d'autorité. Et puis aujourd'hui, on passe dans une autre série de déviances, c'est ce qu'on appelle le wokisme, transgenre, où les gens choisissent leur genre, de plus en plus certains de jeunesse, qui ne le font plus simplement parce qu'ils sont souffrants, mais parce qu'ils décident, parce que là, ils sont décidés de changer de genre. Donc on est quand même dans un monde extrêmement changeant aujourd'hui. Et l'homme se sent tout puissant, peut faire ces choses-là, qui n'étaient pas possibles avant, et se passer de Dieu pour le faire. Donc la crainte d'un Dieu qui nous dépasse, ce qu'on appelle la transcendance, qui est au-delà, qu'on ressent, l'être humain ressent qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais en fait, il n'y a plus cette crainte de Dieu dans notre civilisation aujourd'hui, y compris parmi les chrétiens, bien sûr, il y a toujours des chrétiens fidèles, mais des chrétiens de nous. La société a basculé dans un paganisme, on revient au paganisme, au panthéisme, où on croit que toute chose est divine, au sens où le transhumanisme, on va faire des humanoïdes maintenant qui sont bourrés de puces et on va les utiliser avec des hommes. Maintenant, ils courent déjà, font des marathons avec des humains, etc. Et on est dans ce monde-là. Donc, on est un peu perdu et les chrétiens authentiques sont un peu perdus, comme moi-même et comme je pense vous aussi. En plus, il y a une autre influence, c'est l'influence du mondialisme où les sociétés orientales ont un certain coup. L'Asie, avec la sagesse bouddhiste, avec toutes ces sagesses qui sont véhiculées aussi même dans les entreprises, de prendre conscience de sa capacité à faire des choses par soi-même, etc. Donc, le culte rendu à Dieu dans nos églises chrétiennes, aussi est impacté par toutes ces pensées qui traversent l'Occident actuellement. L'Occident, en ce moment, et d'ailleurs, pour bien sûr pas des raisons justes, sont décriés par la Russie et d'autres en disant on s'éloigne du christianisme, et c'est vrai. Mais en fait, on s'est toujours éloigné dans le sens où c'était une religion obligatoire, mais ce n'était pas une religion qui est une adhésion personnelle. dans notre pays. Donc on cherche maintenant dans la nature, mais qui la nature se retourne contre l'homme, parce que, en fait, avec les écarts climatiques et tout ça, la fameuse nature toute gentille, elle n'est plus si gentille que ça. Vous voyez, donc, en fait, on adore la nature, c'est le panthéisme, hein, c'est le paganisme, on adore les choses qui sont créées au lieu du créateur. Et du coup, ça crée un sentiment d'angoisse existentielle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, encore nous, ça va, mais ceux qui sont au bord de la mer, on sait que la mer va monter avec la fusion des glaciers, etc. Donc il y a un sentiment d'angoisse, un sentiment d'incertitude, un sentiment qui traverse notre société. Et nous, en tant que chrétiens, on doit remonter le courant. On doit être comme les poissons. Les poissons morts, ils descendent, les poissons vivants, ils remontent le courant. Donc il faut qu'on remonte le courant, parce que tout ça, c'est quelque chose qui est en dérive. C'est un christianisme dérivant. Et nous devons remonter le courant. Et notre défi, il est d'une part d'évangéliser un monde qui devient de plus en plus païen, certes civilisé en surface. Ça, on a l'impression que les gens sont gentils, tout ça, mais au fond, ils sont animés par des pensées païennes. Et nous, notre défi, c'est de rendre un culte authentique à Dieu, un culte qui glorifie le Seigneur et qui n'est pas mélangé, parce que nous-mêmes, nous sommes dans ce monde et nous mélangeons un petit peu les choses. Et nous ne voyons plus la crainte du Seigneur. Cette crainte a disparu. Et là, c'est grave. Parce qu'en fait, dans un culte où il n'y a plus la crainte de Dieu, eh bien, on banalise eh bien, notre adoration et notre façon de faire le culte. D'où le choix de cette prédication ce matin. Un culte agréable à Dieu. C'est quoi? Eh bien, c'est un rappel déjà que nous sommes pécheurs. Il ne faut pas l'oublier. D'abord, pour rendre un culte agréable à Dieu, il faut savoir que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu n'importe comment. N'importe comment, c'est pas possible. Mais comme tout est banalisé, voilà, on amène Dieu à notre niveau. Et du coup, même dans l'Église, on n'a plus cette crainte-là. Donc ça rappelle que nous sommes pécheurs. Nous restons pécheurs, même si nous sommes dans une civilisation évoluée avec tout un tas de capacités qui sont à notre portée. Et je vais mettre l'accent sur un modèle pour le culte, pour apporter un culte à Dieu, c'est un modèle que Dieu a donné. Nous devons être sur des révélations de Dieu, pas sur des pensées, sur des opinions. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui ont des opinions sur tout un tas de choses. Mais ce qui compte, ce n'est pas notre opinion, c'est la révélation de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a dit, de la parole effective de Dieu. Et du coup, on banalise un petit peu les choses. Si on n'est pas sur de la révélation, eh bien, on est sur « je pense que, je sais que ». Vous voyez, ici, dans l'Église, Dieu parle. Dieu nous a parlé depuis qu'on existe, depuis 35 ans qu'on s'est implanté ici. Dieu parlait par des songes, des prophéties, par des révélations qui ont été confirmées, etc. Je pense 98, 2018 et autres, et le fameux le pasteur Jean-Paul là, qui vient de partir, eh bien tout ça c'est des révélations. Mais on les oublie. Et du coup on banalise les choses. On voit l'Église un peu comme un ronron, hein, on se rencontre régulièrement, on banalise les choses. Mes amis, l'Église, c'est Dieu qui veut conduire son Église. On dit bien que c'est Christ qui est le chef. Alors bon, si on dit que Christ est le chef, il faut que quelque part, il puisse exercer sa chefferie, il puisse exercer son autorité de chef. Et quand il parle, quand il révèle, voyez-vous, quand Jésus, avant de partir, qu'il a été à la croix, il a réuni ses disciples, il a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Il a posé des questions. Et là, il y a des opinions qui se sont manifestées. Il y en a certains disciples ont dit « Mais... » Voilà, on dit que tu es Jean-Baptiste qui est revenu, parce qu'on sait que Jean-Baptiste revient plusieurs fois dans les Écritures, on sait, etc. C'est un prophète qui est un peu particulier, où il revient. Élie aussi, qui peut revenir, et qui est revenu, qui d'ailleurs s'est manifesté en transfiguration parce qu'il n'est pas mort. Vous voyez. Il y a tout un tas de choses comme ça qui véhiculaient concernant Jésus. Et Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis ? C'est-à-dire non pas ce que les autres disent, alors justement, ils répétaient, ah oui, on dit que, non, mais qui dites-vous que je suis ? Voyez-vous, c'est la question, quelle est ta position ? Quelle est ta conviction ? Quelle est ta foi ? Sur quelle base elle repose ? Et c'est Pierre, bien sûr, qui souvent est le premier à réagir, qui répond en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors qu'en fait, Jésus, c'est jamais, il aura interdit de dire ça, quand c'était sorti d'une manière ou d'une autre, dans ses échanges, il disait, ne le dites pas, parce qu'il voulait être le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, parce qu'il s'est incarné en tant qu'homme, il est venu en tant qu'homme sur la terre, il a porté le poids des péchés, il a donné sa vie à la croix. Donc c'est le Fils de l'homme. Mais là, Pierre a révélé quelque chose qui venait d'en haut. Et Jésus lui dit, mais c'est pas toi, Pierre. C'est mon Père qui te l'a révélé. Parce que dire que Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, puisque Christ n'arrêtait pas de dire Fils de l'homme, ça veut dire qu'il y avait une contradiction. Et vous voyez, souvent, nous sommes pris dans des paradoxes quand nous lisons la Bible. Ah ben non, c'est pas bleu. Et du coup, dans notre logique, la logique qui veut empêcher les paradoxes, eh bien, on n'arrive pas à comprendre la Bible. Pleinement. Or, la Bible est remplie de paradoxes. Justement, pour ne pas qu'on soit dans notre logique à nous, logique simpliste, oui, non, blanc, noir, etc. Non, Jésus, il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, quand vous parlez de ça, ça choque beaucoup de gens, et particulièrement les musulmans. Donc, c'est des révélations qu'il faut. Il nous faut des nouvelles révélations, pas des nouvelles au sens de qui n'ont jamais existé, mais pour nous, il faut que nous soyons convaincus que l'Écriture est révélée par Dieu. Et voilà, nous sommes devant un modèle. Un modèle que Dieu a révélé à Moïse pour un culte authentique. Et ce modèle, c'est le modèle du tabernacle. Voyez-vous, Dieu a créé un monde rationnel, heureusement. Parce que sinon, on serait comme les Gaulois, en disant, ah ben, le ciel va nous tomber sur la tête d'une seconde à l'autre. Non, non, le ciel ne tombe pas sur la tête, il a des lois. Et il suffit d'analyser ces lois pour comprendre qu'il ne tombe pas. En tout cas, pas d'une seconde à l'autre, même s'il perd un peu de vitesse, etc. Donc il y a des lois. Dieu a créé des lois. Il gouverne le monde par ses lois. Il y a des lois physiques, c'est l'objet de la science physique, des lois morales. Et Dieu a établi ces lois morales dans la Genèse en disant tu ne mangeras pas de cet arbre, tu mangeras de celui-là. Donc il y a des lois morales de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Et des lois spirituelles. Et les lois spirituelles, en particulier le culte, qui doit être apporté à Dieu, qui est un être spirituel, en esprit, en vérité, eh bien, c'est aussi basé sur des lois et sur un modèle. Parce que toutes les lois, c'est basé sur des modèles, pour appliquer des modèles. Et quand on connaît le modèle, on peut créer avec le Seigneur, parce qu'on est sur un modèle que lui a créé. Et ce modèle, c'est le tabernacle. Qui décrit la manière par laquelle un homme pécheur peut rencontrer un Dieu saint. Voyez-vous, si on commence à mélanger ce qui est pécheur avec ce qui est saint, eh bien, on n'arrive pas à quelque chose de saint, on arrive à quelque chose de mélangé. Or, Dieu ne se mélange pas, il ne peut pas se mélanger au péché, il ne peut pas se mélanger à la mort, il est vie, il est mort, il peut être vie et mort en même temps. Voyez. Donc, ce modèle du tabernacle est aujourd'hui en vigueur et c'est Jésus qui est dans ce modèle actuellement. Parce que le modèle que Moïse a vu, il a vu un modèle existant et Dieu lui a dit « Tu feras exactement, dans les moindres détails, selon ce modèle que tu as vu. » Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que Jésus est rentré dans cette réalité qui est au ciel, qui est le tabernacle, et qui avait été symbolisée sur la terre par le tabernacle d'Israël. On verra plus tard comment nous on l'applique dans notre Église, dans notre vision évangélique du culte. Dieu dit « J'habiterai au milieu d'eux ». Dieu a créé l'homme pour être avec lui, pour avoir une relation avec lui, et pour habiter au milieu d'eux. Et l'Éternel, eh bien, il a créé son peuple d'Israël à partir d'une constitution avec Moïse, et il les a suivis dans la nuée tout au long de leur parcours dans le désert. Et ensuite, après, il les a emmenés dans le pays de Canaan, où il leur a donné les responsabilités avec un roi. Jésus est venu, sa première venue. Il s'est incarné comme un homme. Et dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, il est dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En Jésus habite corporellement, c'est-à-dire dans les choses concrètes, toute la plénitude de la divinité. C'est absolument incroyable que dans un homme, Jésus, toute la divinité se manifeste. C'est incroyable, ça. C'est absolument quelque chose qui nous dépasse. Et pourtant, les disciples ont été au contact de cette réalité. L'Église, aujourd'hui, en tant que corps de Christ, puisque Christ est la tête, eh bien, nous savons que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alors, dis à ton voisin, tu es une habitation de Dieu en esprit. Habitation de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes la maison dans laquelle Dieu veut demeurer. Une maison, c'est là où on demeure. Il veut demeurer en nous. Et Dieu habite en chacun de nous quand nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il a dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc c'est encore plus loin, c'est-à-dire un sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous. Et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors dis ça aussi à ton voisin, ton voisine, tu ne t'appartiens pas à toi-même. En tout cas, si t'es chrétien, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et nous ne sommes pas propriétaires de nous, nous sommes locataires. Nous sommes de ceux où Dieu a fait une habitation, parce qu'on lui a donné notre vie, et maintenant, nous recevons en tant que locataire simplement le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais le problème, c'est que nous voulons tout le temps devenir propriétaires. Nous ne voulons pas rester locataires. Nous voulons prendre les choses en main pour conduire notre vie. Et c'est ça le drame. Alors, le modèle du tabernacle, il établit le rapport entre Dieu et les hommes dans le cadre d'une constitution. Le peuple d'Israël était constitué par un droit, ce sont les tables de la loi, et ensuite après les 10 commandements se sont transformés en Deutéronome, c'est-à-dire la deuxième loi. Deutéronome, c'est la deuxième loi. Donc il y a tout un tas de lois qui géraient la vie communautaire d'Israël. Et c'est un peuple prophétique, c'est-à-dire que le peuple d'Israël précédait ce qui allait arriver. Il allait annoncer le Messie qui allait venir. C'est pour ça que les Juifs attendaient le Messie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie parce qu'ils ont loupé la marche avec Jésus. Et ils attendent le Messie, alors il va revenir, c'est vrai. Mais ils ont loupé le premier venu de Jésus qui, lui, s'est incarné. Et c'est ça qui n'était pas accessible à leur pensée logique. Que Dieu s'incarne dans un être humain qui est pécheur. Et c'est ce que les Grecs aussi ont refusé. Quand l'apôtre Paul à Athènes dit que Jésus est ressuscité, ils ont arrêté de l'écouter. Parce que pour eux, la résurrection, c'était une malédiction. Revenir dans un corps, vous voyez, ressusciter, c'est une chose, mais revenir dans un corps, alors que le corps a tout plein de problèmes, de maladies, de défauts, d'infirmités, etc. Mais pour les Grecs, non. Les Grecs, vous avez vu les statues grecques, c'est c'est magnifique. Hein. Comment il dessine, comment il sculpte l'être humain avec une beauté, un raffinement, etc. C'est ça l'idéal grec. Voilà. Donc il ne pouvait pas accepter que quelqu'un qui est un humain puisse ressusciter d'entre les morts. C'était impossible. Et pour ça, ce n'est pas accessible. L'évangile n'est pas accessible si vous êtes bloqué dans une pensée qui n'accepte pas quelque chose qui doit perturber votre pensée normale. Notre Dieu est trois fois saint. Le chiffre 3 manifeste l'affirmation de la sainteté. Trois fois saint. Il est amour, il est justice. Et on ne peut pas venir, l'être humain, qui est pécheur, on sait tous que nous sommes pécheurs, on ne peut pas venir devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu, de cette manière. Et c'est pour cela que toutes les paraboles que Jésus a dites de la robe blanche qui est revêtue par ceux qui doivent entrer dans la présence de Dieu. Donc la raison d'être du tabernacle, c'est une raison qui est logique au regard de ce que nous sommes sans l'intervention du Seigneur Jésus dans nos vies. Dans Actes 7, verset 44, il est dit qu'au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'Alliance, donc c'est le tabernacle, et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y demeura jusqu'au temps de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Vous voyez la notion de demeurer, la notion de maison, la notion d'habiter au milieu du peuple, c'est ça qui est dans le cœur de Dieu, d'être avec les êtres humains. C'est pour ça que quand on parle de christianisme, quand on parle on évite de parler de religion, parce que la religion met des distances avec Dieu et il faut obtenir les faveurs. Donc on apporte des sacrifices, on apporte des choses au pied d'une représentation de Dieu. Alors qu'en fait, dans le christianisme, c'est une relation. Parce que Dieu veut demeurer avec nous, au milieu de nous. Il l'a fait avec le peuple d'Israël, au travers du tabernacle, et il le fait avec nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que vous avez dit à votre voisin. Le défi, c'est la demeure de Dieu en nous et dans son peuple. Dans Exode chapitre 33, versets 7 à 11, je lis « Moïse prit la tente, donc la tente c'est le tabernacle hein, qui sous forme de tente à l'époque, après c'est devenu un temple avec Salomon, et le dressa à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appela tente de la rencontre. » Voyez-vous, déjà le fait tente de la rencontre, c'est de rencontrer Dieu dans cette tente. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait. Et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Voyez-vous, cet entretien, c'est ça qui est incroyable. Rappelez-vous, sur le mont de la Transfiguration, Jésus s'est manifesté glorieusement à ses disciples avec Moïse et Élie. C'est justement cet exemple de cette rencontre entre Dieu et les humains. Dieu aime nous rencontrer. Est-ce que nous aimons le rencontrer? C'est toute la question. Et c'est là que se pose la question de notre dérive actuellement du christianisme qui nous attachons à beaucoup d'autres choses que d'aimer rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, il s'entretenait avec Moïse. Et tout le peuple voyait la colonne de nuée. Oui, c'était physique. Et se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait. chacun à l'entrée de sa tente. Et vous, là, on a la crainte de Dieu, qui n'existe de moins en moins aujourd'hui. La crainte de Dieu, c'est qu'il voyait que Dieu rencontrait Moïse, le chef du peuple à l'époque, qui avait été désigné comme celui qui allait les conduire comme leader, et il se prosternait devant leur tente parce qu'il reconnaissait que Dieu était en train de lui parler, de lui donner des consignes, de lui donner des directions. Et ça, c'est un ensemble de choses qu'on perd, et qu'on perd de plus en plus, parce que l'autorité, eh bien, elle est bafouée. Donc là, on a vraiment cette rencontre entre Dieu et Moïse, et le peuple qui reconnaît qu'il est conduit par cette dynamique de rencontre. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le corps. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Là déjà, on pourrait faire toute une prédication là-dessus. Et où, le jeune Josué qui a remplacé Moïse, qui a eu le privilège de faire entrer le peuple dans le pays promis, et Dieu a interdit à Moïse de rentrer, ce qui a fait des erreurs. Les leaders ne sont pas parfaits, hein. Mais ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de choix, d'élection. Dieu choisit qui il veut. Et c'est au peuple de le discerner. Et donc, le jeune Josué, eh bien, il avait déjà le souci de rencontrer Dieu. Parce que dans la tente, il y avait Dieu. Et c'est là qu'on remarque ceux qui suivent les leaders, qui ne cherchent pas eux-mêmes. Josué, il aurait pu aller dans sa tente, regarder la télévision. Pardon, ça n'existait pas. Mais faire toutes sortes de choses. Non. Il savait que là, il y avait un secret. Eh bien, secret d'une rencontre entre Dieu et un homme à qui Dieu confie une mission. Moïse avait la mission d'emmener le peuple jusqu'à l'entrée du pays de Canaan. Il aurait pu rentrer, mais il a fait des erreurs. Et Dieu a choisi Josué. Mais Josué était prêt. Parce que pendant toute cette période-là, ces 40 ans où il était, mais il faisait ça. Il avait le souci, il avait le soif d'entendre Dieu lui parler. Alors, est-ce que nous avons la soif d'entendre Dieu nous parler? Je vous pose la question. Je crois que elle s'effrite, parce que nous sommes entourés d'un tas de choses qui nous distraient. Et c'est fait pour. Parce qu'il y a l'ennemi aussi, qui est là, qui veut nous distraire des préoccupations. Notre préoccupation devrait être la mission. Annoncer l'Évangile à toutes les nations. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus a donné à son Église? Et où est-ce que nous sommes dans cette mission? Bien, Josué, il avait le souci de dire « Je vais entrer dans le pays de Canaan » parce que ça, c'est l'objectif, c'est le but que Dieu a donné dès le départ de la sortie d'Égypte. Voyez-vous, c'était quelqu'un de déterminé. D'ailleurs, il n'y avait pas que Josué, il y avait aussi les fils de... Je cherche le nom, ceux qui étaient dans le pays promis, dans les espions. C'est.
Caleb.
Voilà. Il y en avait trois. Hein. Et c'était des battants. Et même la fille, la sœur de Caleb, mais ils réclamaient les sources. Hein. Vous voyez, c'est des gens déterminés. Il faut qu'on soit déterminés. Parce que surtout aujourd'hui, où on a des contre-pouvoirs qui essaye de nous empêcher d'être vraiment chrétiens. Dans Hébreux, c'est un livre qui éclaire ce qui dans la signification de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour le ramener à la compréhension du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 19? Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sacrifice du sang de Jésus. Et vous, déjà là, on arrive au culte chrétien, culte évangélique. Aujourd'hui, nous avons la liberté, ce qui n'était pas du tout le cas au temps d'Israël. Dans Israël, il n'y en avait qu'un. Parmi l'ensemble du peuple, c'était le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer. Et encore, il fallait qu'il respecte toutes les normes de pureté, etc., sinon il était frappé immédiatement et il devait le tirer avec une corde parce qu'il mourait à l'intérieur. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais aujourd'hui, nous avons une liberté. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? C'est tout le problème du christianisme aujourd'hui, évangélique particulièrement. Qu'est-ce que nous faisons de la liberté que nous avons? Est-ce que on le banalise? C'est une liberté. Quelque chose d'incroyable. C'est un privilège. La liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sacrifice du sang de Jésus. C'est grâce au sacrifice du sang de Jésus que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Que nous pouvons, sans intermédiaire, directement aller dans la présence de Dieu. Et goûter la présence de Dieu. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire son propre corps. Le rideau qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous vous rappelez? Ça, c'est dans le modèle. D'ailleurs, c'est un rideau. C'est-à-dire, c'était pas une paroi en dur, alors que tout le reste, c'était en dur. Et là, c'était un rideau. Parce que ce rideau, un jour, il allait être déchiré. Et quand est-ce qu'il a été déchiré, ce rideau?
À la mort de Jésus.
La mort de Jésus. Ça veut dire que, vous voyez, ça, c'est le problème des symboles. Enfin, pas le problème, c'est les symboles. Ils parlent. Le symbole du rideau, c'est la chair de Jésus. C'est quand la chair de Jésus, quand elle a été meurtrie par les coups, quand son corps a été détruit et il est mort parce qu'il portait nos péchés, c'est là que le rideau, eh bien, que la chair, eh bien, a disparu. Donc en fait, c'est la résurrection de Jésus qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu parce que Jésus est en nous, il est ressuscité et nous pouvons entrer dans sa présence. C'est pour ça que l'apôtre dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, donc la foi, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voyez-vous, il y a des conditions. On ne peut pas s'approcher comme ça. « Oh, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. » Des fois, on entend le sang de Jésus, on chante le chant de Jésus. Mais quand on arrive à la scène, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met en face de tout ce qu'on a mal fait? Et on fait tous les jours quelque chose de mal. Hein, parce que sinon, nous sommes pécheurs, si nous disons la même. Et là, nous devons prendre conscience que nous devons confesser ces péchés-là. Parce qu'ils ne sont, couverts par le sang que s'ils sont confessés. Parce que sinon, on arrive à un universalisme. On dit que tous les hommes sont sauvés, simplement, voilà, il suffit que le roi ait décidé qu'il y a le christianisme, vous devenez chrétien, vous êtes sauvés. Non. Ça, c'est de l'universalisme. Mais le résultat de la mort de Jésus, c'est qu'il nous met devant un défi de l'accepter et de confesser nos péchés. C'est en confessant que nous sommes, eh bien, rétablis dans une relation avec Dieu. Alors, gardons, je relis l'Hébreux 10, gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Nous avons une espérance, la foi, l'espérance et l'amour. C'est les trois choses qui ne s'arrêteront jamais. Dans l'éternité, il y aura la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est plus important. Mais l'espérance, c'est que nous savons ce que nous proclamons va arriver, que nous serons un jour dans la présence de Dieu, si nous ne renions pas, bien sûr, notre foi. Car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons donc les uns sur les autres. Amen. Dis-le à ton voisin, veillons les uns sur les autres. Voilà. À mon œil, dans l'église, on a critiquer, de dire, oui, tu veilles trop, là, tu fais trop attention, etc. Mais c'est marqué, veillons les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que qui suis-je pour dire que je ne chuterai pas? Moi, je peux chuter. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui veille. Et vous devez veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas juste sur le pasteur. Hein. C'est tous, le pasteur, c'est une fonction. C'est rien d'autre. Mais tous les uns sur les autres. Et c'est pour ça que je propose de reprendre cette pratique de prier le dimanche matin dans les petits groupes, parce qu'on peut s'exhorter, on peut aussi se reprendre, mais s'exhorter, donner des choses qu'on reçoit du Seigneur, de la part du Seigneur, pour le donner à l'autre. Vous voyez, on peut s'édifier l'un l'autre. Veillons donc les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Bon, on est là pour aimer, non pas pour critiquer, non pas pour tout un tas de choses qui ne sont pas de nature à glorifier le Seigneur, mais aimer et faire des bonnes actions. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Dans le sens où ce n'est pas l'assemblée qui vous sauve, hein, qui nous sauve. Mais si une assemblée commence à être un petit peu gênante, parce que là, le fait qu'on veille les uns sur les autres, que c'est gênant, bah, si vous avez une assemblée qui ne dit rien, okay, mais est-ce que vous pouvez exercer un culte qui honore le Seigneur? C'est là la question. Il faut faire des choix. Donc, au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela, d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui voient approcher le jour du Seigneur? Levez la main. Moi, je vois le jour du Seigneur approcher. Ne serait-ce que simplement parce que, à cause du chronos, vous savez, le chronos, c'est quoi? C'est le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Souvent, je dis à Michel, si on ne peut pas arrêter le monde de tourner, donc les secondes, elles passent. Voilà. Donc le tic-tac, c'est le chronos. C'est les secondes qui passent. Eh bien, les secondes qui passent fait que le temps s'écoule et on arrive. Est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Donc le retour, ça veut dire qu'il va revenir à un moment donné. Donc on s'approche de ce jour, non? Oui. Donc, il n'est pas question de chercher des dates, c'est pas le problème. Mais qu'on s'approche du jour, c'est une réalité et c'est une chose qu'on doit prendre en compte. Donc veillons encore davantage les uns sur les autres, encourageons-nous les uns les autres, encourageons-nous à veiller, encourageons-nous à marcher, encourageons-nous à évangéliser, encourageons-nous à faire du bien, cela d'autant plus que vous nous approchez le jour du Seigneur. Dans Actes, chapitre 17, verset 26, « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples, il les a établis sur la terre entière, il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent, et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. » Et oui, c'est un discours de Paul, mais qui est toujours actuel. C'est que Dieu n'est pas loin, puisqu'il peut rentrer dans nos cœurs. Et si un chrétien est là, qui est vraiment dans le Seigneur, eh bien, il va impacter, même s'il est dans un métro, même s'il est dans un endroit donné, il va impacter. Hein. Combien on a des retours de personnes qui disent au travail, ou autre, cette personne a changé l'humeur de cette ambiance, etc. Parce que c'est un chrétien. Mais même s'il ne l'a pas dit, il est là. Parce que le Seigneur est en lui, et pas à travers lui. Quand vous êtes avec vos voisins, etc. Voilà. Mais soyez conscients que Dieu est en vous, que le Saint-Esprit est en vous. Si vous avez reçu le Seigneur, c'est une réalité. Et donc ça vous permet de donner une occasion à ces personnes de poser des questions. Bien sûr, il faut attendre qu'ils posent des questions. Si le Seigneur vous inspire, si vous donne une révélation, une vision, vous la donnez. Mais attendez souvent les questions. C'est beaucoup plus facile de répondre aux questions. Mon fils aîné, il a un talent particulier. En fait, il a cet art de faire poser les questions des gens. Lui, il ne parle pas, mais il a toujours l'occasion de témoigner. Parce que, vous voyez, je veux dire, il faut laisser les gens poser des questions. C'est plus facile de dire oui à cause de ça, parce qu'ils commencent à se poser des questions en disant « Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce que moi, j'aimerais avoir ?» Et là, vous suscitez l'intérêt. Et votre témoignage est beaucoup plus efficace dans ces cas-là. Je ne veux pas dire que les gens se convertissent automatiquement, mais en tout cas, ils se poseront des questions pour aller plus loin. Et le Seigneur veut qu'on le cherche. C'est un Dieu qui aime qu'on le cherche. Il ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas parce qu'il nous donne une liberté. On peut faire ce qu'on veut de notre vie. Oui. Et tout le monde, y compris les chrétiens, on reste libre. On n'est pas obligé de suivre le Seigneur. D'ailleurs, Jésus souvent disait à ses disciples, vous ne voulez pas vous aussi partir? Parce que toute la foule partait, parce qu'elle ne supportait plus certains discours de Jésus. Elle dit, mais si, vous pouvez partir. Et qu'est-ce qu'il a dit Pierre?
Nous avons tout abandonné pour toi.
Oui, et qu'est-ce qu'il a dit encore? Pardon?
Vous avez...
Qui irions-nous? Celui qui a la parole de la vérité.
Voilà, à qui irions-nous? Voyez-vous, ça montre déjà, c'est souvent dans les réponses que vous voyez ce que pensent les gens à l'intérieur. Il a dit, à qui irions-nous? Seigneur a dit, non, mais partez, hein, je fais ma mission, Père m'a envoyé, voilà, vous voyez, il n'y a pas de contrainte. Mais Pierre, il y a quelque chose qui brûlait en lui. Il y a quelque chose qui l'attirait à Jésus. Et c'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut une flamme. Il y a un chant qui s'appelle « Une flamme en moi ». Tu connais Moïse ?« Une flamme en moi ». C'est un vieux chant. Une flamme en moi. Règne en moi, je ne connais plus les paroles. Mais c'est un chant qui justement montre qu'il y a une flamme en nous. Dieu a placé une flamme en nous. Et cette flamme, il faut la renouveler. Il ne faut pas la laisser s'éteindre. Et cette flamme, eh bien, c'est la flamme du Saint-Esprit, la flamme de la présence de Dieu. Et le Seigneur n'est pas loin de chacun d'entre nous, y compris des inconvertis, qui souvent disent, mais oui, mais j'ai accepté le Seigneur, mais. Finalement, je sais que c'est la femme d'Armour, Christelle, qui disait « Mais c'est incroyable, je pense à ça, il était là. » Elle était inconvertie, et quand elle s'est donnée au Seigneur, elle se rappelait tous les moments où le Seigneur était là. Le Seigneur est là. Il est avec chacun de nous parce qu'il aime les humains. Il les a créés pour avoir une relation avec lui. Donc, laissez-vous toucher par le Seigneur. Alors, j'arrive au modèle. Enfin, le modèle du gamin. Alors, le modèle du tabernacle, là, c'est une vue d'avion, hein, même si l'avion n'existait pas à l'époque, une vue d'en haut, du ciel, qui montre tout autour, là, il y a les 12 tribus qui habitaient dans les tentes, et il y avait un contour qui était le contour du tabernacle, qui circonscrivait un parvis, ce qu'on appelle le parvis, hein, donc le parvis qui est en bas. Et après, il y a une tente particulière, à l'époque c'était une tente dans laquelle il y avait les deux lieux, le lieu saint et le lieu très saint, qui étaient coupés par le voile. Donc c'est tout simple, et ça se faisait dans le désert, et on pouvait se déplacer. Donc il y a à gauche la petite image qui montre que la colonne de nuée était sur l'arche d'alliance pour conduire le peuple. Et quand elle se levait, le peuple partait, et quand elle s'arrêtait, le peuple remettait la tente. Et ça, pendant 40 ans, ils ont fait ça. Et donc ça, c'est le tabernacle de Moïse, qui est décrit dans Acte 7, verset 47, je ne vais pas lire ici, mais vous pouvez le lire chez vous. Dans Acte 7, 47, c'est les apôtres qui rappellent ça. Donc c'est un rappel de l'Ancien Testament par les apôtres eux-mêmes, dans Acte 7, 47. Et dans ce tabernacle, pour s'approcher de Dieu qui était, se manifestait dans le lieu très saint, uniquement, eh bien, il y a un parcours. Ce n'est pas un parcours d'obstacles, c'est un parcours qu'il fallait respecter. Si vous ne respectez pas le parcours, vous étiez mort. Vous arriviez devant un Dieu saint, et la sainteté vous tuez immédiatement, vous, en tant que pécheur. Donc, il fallait respecter ce parcours. Et donc, j'ai mis... 7 chiffres, 1 qui commence par l'entrée, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Donc il y a 7 étapes progressives pour s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément 7 dans un culte évangélique, mais je vous le dirai une fois que cette étude sera terminée, mais il y a toujours des étapes à respecter qui sont liées à ce modèle qui est un modèle qui existe dans le ciel. Et Jésus, il œuvre en tant que souverain sacrificateur dans ce modèle-là. Ce n'est pas juste un modèle théorique, un modèle voilà, qui est inventé par Dieu, non. C'est une réalité spirituelle qui est transférée symboliquement sur la terre et qui nous parle de la façon dont l'homme peut atteindre Dieu. Alors c'est cette étape du culte, dans Romains 12, je l'ai lu ce matin, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. » Vous voyez, il y a la logique là-dedans. Dieu est logique. Il n'a pas créé l'univers sans logique. Lisez le livre actuellement, Dieu, la science, les preuves, où la science prouve que Dieu existe. Parce que Dieu est logique. Et que, justement, tout ça, ça ne tombe pas en désuétude, ça ne tombe pas en morceaux. Dieu a créé les choses avec une logique, avec une raison. Et voilà la logique du parcours de ce tabernacle. C'est un modèle de reproduction qui comprend trois lieux et sept objets symboliques. Alors, trois lieux, c'est le parvis, hein, qui est donc une sorte de cour intérieure, hein, il faut rentrer. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et les sept étapes, pour les sept éléments concrets aussi, qui sont liés à ces étapes, c'est un, la porte. La porte, il faut rentrer par la porte, vous ne pouvez pas enjamber le parvis, rentrer dans le parvis autrement que par la porte. Il y a les sacrifices, donc l'endroit où il y a les sacrifices, il faut passer par cet endroit. Il y a la purification, qu'il faut aussi utiliser comme étape. Il y a la lumière, on verra le chandelier qui est la lumière. Le pain de vie, les pains de proposition. Les parfums, l'autel des parfums, l'autel d'or. Et enfin, l'arche d'alliance. Je vais juste, malheureusement, je pensais prendre les cinq premiers, mais je pourrais pas aller plus loin que la porte. Donc, on va commencer par la porte. La porte, c'est d'abord un choix personnel. D'accord ? Mishkan, c'est-à-dire demeure au temple d'assignation, c'est la tente de la rencontre. Et il faut rentrer par la porte. Rappelez-vous, dans Apocalypse, Jésus dit « Je suis la porte » si quelqu'un frappe. Hello ? Si quelqu'un frappe à la porte, j'entrerai et je lui ouvrirai la porte. C'est-à-dire que c'est un lieu de communion, c'est un lieu de partage. La tente de la rencontre, c'est un lieu où Dieu veut partager avec l'être humain, avec l'homme, avec son peuple. Mais il faut pas passer par une porte. Et il faut avoir l'humilité de passer par la porte, de cogner à la porte pour demander l'entrée. On a vu tout à l'heure que Dieu n'est pas loin, il faut le chercher. Il faut le chercher, mes amis. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui leur tombent dessus, parfois ils ont du mal à y rester chrétiens, parce qu'ils ne savent pas trop pourquoi. Mais ceux qui ont cherché, rappelez-vous le pasteur qui est venu avec Gilles, on ne peut plus... Non, le pasteur de Côte d'Ivoire.
C'est le chantre.
Mais quand il venait. Connaît, Moussa connaît. Alors, Moussa connaît, c'est incroyable. Lisez son. Il vient régulièrement, c'est un pasteur qui est de Côte d'Ivoire. C'est un musulman. Je crois que c'est le 14e, je peux me tromper, 14e dans la génération des musulmans, il devait être imam, etc. Il a cherché dans la Bible, dans le Coran, il a cherché Dieu. Et il n'a pas eu de cesse de chercher. Et c'est une histoire incroyable. Dans le Coran, il a trouvé Jésus. C'est dans le Coran, parce que le Coran, c'est un remâchouillage de la Bible. Hein. Il y a 95% de Bible dans le Coran. Donc, il a trouvé Jésus. Et Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, tu vois ça, ce verset-là, il est révélé, celui-là est arrivé. Donc il recevait directement des révélations qui sont justes dans le Coran et qui l'ont amené à Jésus. Et dans tout un parcours, à un moment donné, eh bien à la fin, il ne savait pas trop, parce qu'il était conduit par quelqu'un à Jésus, il ne savait pas trop ce qu'il devait faire, est-ce qu'il devait continuer à vivre sa foi chrétienne ou pas. Eh bien, il avait la Bible, et la Bible, non. Le Coran, désolé. Le Coran lui a brûlé dans les mains. Il a pris feu dans les mains. Et ça ne lui a pas brûlé les mains. Et donc c'est là qu'il a compris qu'effectivement, c'était entièrement un chrétien. Aujourd'hui, c'est un pasteur incroyable. Il est connu par Gilles, qui dit, Il est persécuté, il est menacé de mort tout le temps, etc., parce qu'il vit au milieu du sien, et il est mort. Voyez-vous, c'est parce qu'il a cherché. Il a cherché Dieu. Cherchons Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et même en tant que chrétien, il faut continuer à chercher la présence de Dieu, la face de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous révélera des choses cachées, des choses qui ne sont connues de personne, mais le Saint-Esprit nous révèle. Donc c'est une porte. Et cette porte, il faut frapper pour entrer. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte, le chemin, la porte. Et Jésus, on doit frapper à sa porte. Et c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la conversion. Regardez, il y a deux arbres. Déjà à Genèse, Dieu a dit, choisis. Choisis le chemin, choisis la vie. Tu as deux chemins, tu as deux arbres, tu as la connaissance, connaître par toi-même, hein, c'est l'arbre de la connaissance, ce qu'on fait aujourd'hui dans le paganisme actuel, on veut tout connaître sans Dieu. Et l'autre, c'est l'arbre de Jésus, l'arbre de la vie. C'est l'arbre où on vient goûter que le Seigneur est bon et Dieu nous parle. Donc, il y a toujours eu ce choix, toujours cette porte. Et là, c'est la main tendue du Seigneur qui vient quand on saisit, quand on ouvre, quand on frappe à la porte et que Dieu nous ouvre, il nous prend la main. Et il nous fait entrer. Amen. Je termine par ces versets d'Hébreux 13, 12. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville. Vous vous rappelez, dimanche dernier, je vous ai dit que pendant la Pâque, il y avait, je ne sais plus les chiffres, je crois que c'est 20 000 agneaux qui étaient égorgés. Il y avait des cris dans Jérusalem, au temple, enfin, là où il y avait le temple, le sacrifice. Il y avait des cris, mais il y avait un autre cri, c'est Jésus, à l'extérieur. Il a été crucifié à l'extérieur. Et là, il y avait un cri. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voyez-vous, Jésus est mort en dehors de la ville, afin de purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui. C'est vrai que le chrétien veut se protéger du mépris. Vous voyez, comme moi je me suis converti, j'étais entouré de 300 élèves, parce que j'étais dans une école d'ingénieurs, il y avait 300. Ah bah, ils se moquaient de moi, parce que je manifestais ma foi et tout ça. Voilà, j'ai vécu des choses. Mais en même temps, j'étais dans la joie du Seigneur. Vous voyez, je savais ce qui se passait, mais moi je n'étais pas affecté, parce qu'il y a une joie intérieure quand vous êtes dans le Seigneur. Et l'extérieur, eh bien, peut être très hostile. Eh bien, vous êtes dans la présence du Seigneur. Donc, allons donc en dehors du camp en supportant le mépris, le même mépris que lui. Car nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Amen. Est-ce que vous cherchez la cité à venir ? Est-ce que vous voulez rester dans cette cité ici ? Cette cité ? De plus en plus, la délinquance, des choses qui aussi vont nous arriver de plus en plus, hein, c'est pas réservé à certains quartiers. Eh bien, la cité de Dieu, c'est une cité où il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Mais on peut déjà vivre une thèse ici-bas dans notre fort intérieur. Le psaume 84, 2 dit « Le Seigneur de l'univers, comme j'aime ta raison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple, dans le parvis. Hein. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. » Tout à l'heure, on a chanté des cris de joie. Hein. Voilà. Et c'est ça, c'est qu'on est heureux dans la présence du Seigneur et dans la cour de son temple. Oui, un seul jour dans tes cours, dans les cours de ton temple, dans les parvis, vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que de vivre avec des gens sans foi, ni loi. Alors, est-ce que nous voulons vivre ça en tant qu'Église ? C'est ça le défi. Il faut mettre le prix. Et les promesses sont là. Acte 2, 42, l'église primitive, ils vivaient des choses tellement fortes entre eux, ils s'aimaient au point où les gens disaient, mais regardez comme ils s'aiment. Alors déjà, il faut s'aimer à l'intérieur, mais quand les gens à l'extérieur disent, ah là, on va aller voir comment ils s'aiment. Il y a ma belle-mère, donc la mère de Michel, qui a vécu rebelle et plein de choses. Elle était catholique, complètement hostile aux évangéliques, et rigolait parce qu'elle était dans la rue où ils sortaient, sauf qu'à l'intérieur, elle ne savait pas, c'est qu'il y avait des miracles incroyables. Michel disait que pratiquement dans chaque réunion, il y avait des miracles. Bon. Donc ils sortaient complètement fous, tellement de joie, quoi. Et ma mère sortait avec sa copine en disant, tiens, on va regarder les fous qui sortent, les fous qui sortent. Il n'y avait pas des fous, mais c'était fou de Dieu. Et, qui, voilà, et que cette joie, bien sûr, ça faisait bizarre de voir des gens exulter, dire t'as vu le miracle, t'as vu. Vous savez, il y a des goîtres qui étaient gros comme ça, paf, un instant, une seconde, le goître est disparu. Il y a des gens qui n'existaient pas, des gens qui se recréaient. Bon. Voilà, c'est ça le réveil, hein, c'est la puissance de Dieu. C'est ça qu'on espère. Eh bien, ils aiment regarder comme ils s'aiment, comment ils sont dans la joie. Comment ils s'entendent, etc. Et c'est ça qu'on veut dans l'Église. Et je sais que Dieu n'a pas changé. Et qu'il nous donnera ça si on l'attend. Amen.